Bien le bonjour à tous et que le Seigneur vous fortifie et vous fasse du bien vraiment ce matin. C'est mon souhait de tout cœur. Voilà, donc je vous l'ai déjà dit, je voudrais vous parler une seconde fois du découragement, et j'en ai parlé déjà la semaine passée, mais aujourd'hui je voudrais vous en parler d'une façon différente, d'autre chose. Je vous ai parlé la semaine passée du découragement, et je parle, et encore cette fois-ci, je parle surtout du découragement qu'un chrétien peut éprouver dans sa marche dans la foi. Il y a des arrêts comme ça, parfois presque des demi-tours. Des arrêts, on laisse tomber les bras, et c'est dommage. Et donc je voudrais vous parler de ce découragement qui touche les chrétiens, qui touche les églises, et j'aimerais dire, évidemment il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas toutes les dire, mais aujourd'hui j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Et donc on va y venir. Et pour cela, avant de lire déjà un texte, on va lire un texte, même plusieurs, enfin pas des longs textes, mais quelques versets. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous faire prendre une illustration ou deux, d'accord ? Et la première illustration, c'est une illustration que je prends souvent parce qu'elle existe aussi dans la Bible. On parle de l'athlète dans la Bible, n'est-ce pas ? On parle aussi du soldat, d'accord ? Et on fait des comparaisons avec le chrétien, n'est-ce pas ? On parle du soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. On parle de l'athlète qui s'abstient de certaines choses, etc., et qui se drille finalement parce qu'il veut obtenir le prix. Et donc, c'est des comparaisons qui existent aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et donc, je vais prendre encore une fois cet exemple que j'aime du sportif. Et je vais peut-être, pour vous aider, donner quelques titres, enfin en tout cas poser quelques questions. Et la première question sera celle-ci. Comment se déroule la vie d'un sportif ? Peut-être après, on pourra prendre l'exemple suivant. Comment se déroule la vie d'un étudiant ? Donc, vous voyez, comment se déroule la vie d'un sportif ? Comment se déroule la vie d'un étudiant ? Comment se déroule la vie d'un chrétien ? Et puis, pour conclure, ce sera, vous voyez, comme ça, vous avez déjà un peu le plan en tête. Et j'aime bien ça, comme ça, ça vous aide à comprendre, je le pense. Et puis après, je terminerai en disant comment devrait être la vie d'un chrétien ? D'accord ? Comment se déroule la vie d'un sportif ? Comment se déroule la vie d'un étudiant ? Comment se déroule bien souvent la vie d'un chrétien ? Et puis, pour terminer, comment devrait se dérouler la vie d'un chrétien ? Voilà, c'est assez simple. Je ne vais pas faire de la théologie aujourd'hui, loin de là. Enfin, bon, quoique, il faut encore voir ce que ça veut dire théologie, mais enfin, vous m'avez compris. Voilà. Le sportif. Alors, on va le prendre depuis sa naissance, n'est-ce pas ? Depuis sa naissance, enfin, je veux dire depuis, non, pas sa naissance, mais depuis le début. Voilà, je me rappelle, Jérémia, par exemple, il a fait du basket comme moi, mais je me rappelle, mais au début, on l'a mis au baby basket. On l'a inscrit, voilà. Et voilà, le début de la carrière d'un sportif, c'est ça, il s'inscrit, n'est-ce pas ? Et puis quand il s'inscrit, il fait quoi ? Eh bien, la première chose, c'est il y a un apprentissage, non ? Quand un sportif, bon, un enfant, on va dire comme ça, mais on va l'appeler le sportif. La première chose après s'être inscrit, c'est il va apprendre les règles, non ? Ou sinon, il ne saura pas jouer s'il n'apprend pas les règles. Et normalement, vous devriez déjà voir où je veux en venir. Parce que beaucoup de chrétiens s'inscrivent. Bon, je vais déjà trop vite, mais ils s'inscrivent, mais ils n'apprennent pas les règles. Bon, soit. Alors, c'est trop vite, mais je n'en suis qu'à l'introduction et à mon illustration, mais je vais continuer. Et puis, il continue à apprendre les règles, et puis il va s'exercer, n'est-ce pas ? Et puis il va s'entraîner. Avec passion, parce qu'évidemment, on parle pas d'un sportif qui fait ça parce qu'il est en train de chercher ce qu'il va faire. Non, je parle du sportif qui aime son sport, évidemment. L'étudiant, ça va être pareil. Je parle d'un étudiant qui, bien sûr, il a son métier en tête, il a une passion, n'est-ce pas, évidemment. Soyons logiques. Vous savez que je fais la comparaison, vous le savez déjà. Je ne vais pas tourner autour du pot, c'est logique. Vous savez que je fais la comparaison avec la vie du chrétien. Et donc voilà, c'est un sportif, un passionné, un étudiant passionné, parce que tout le monde sait qu'un chrétien aussi est passionné pour son Seigneur. Non ? Bon. Je ne veux pas être cynique, hein, je ne suis pas cynique. Voilà, ça va ? Bon, c'est comme ça. Alors voilà, il s'entraîne avec passion. Voilà, il s'entraîne avec passion, avec volonté. Après avoir appris les règles, après s'être initié, on va dire comme ça. C'est un bâton. Mais alors, quand la défaite est là, parce que dans toute vie de sportif, à un moment donné, la défaite est là, l'épreuve est là. Il y a la compétition, il y a des matchs, des combats parfois, ça dépend le sport évidemment. Que fait-il quand la défaite est là? Pardon? Il s'entraîne davantage. Ben oui, c'est simple, c'est tellement logique. Quand la défaite arrive dans la vie du sportif, que ce soit un combattant, que ce soit comme nous, on a fait du basket, et puis voilà, si on voit que l'équipe, ça ne va plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équipe ou le sportif se remet en question. Il va approfondir son entraînement. Il va revoir sa tactique. Donc, les règles, encore une fois, il va essayer de mieux comprendre les règles, de voir, mais pourquoi ça ne va pas? Est-ce que j'ai bien compris la tactique, vous voyez? Je compare ça avec les règles, avec... Ouais, parce que tout sport a des règles, a ses subtilités. Il va redoubler de son temps de perfectionnement parce que il aime son sport et il veut gagner. Il veut remporter le prix, n'est-ce pas? Et puis... Ce sont des sous-questions, n'est-ce pas? Quand un adversaire redoutable arrive, ça arrive, une grosse équipe, un adversaire redoutable arrive, ce qu'il va faire? Il va se préparer en conséquence, non? Sa préparation va être plus intensive et plus motivée. La motivation va augmenter. La concentration va augmenter, non? Quand il sent que la grosse équipe arrive, la préparation, l'objectif, ça va prendre plus de place dans son cœur et dans sa tête. Et puis, quand le temps arrive alors de passer, de monter de division, d'accord? Parce que c'est ça le but, à moins qu'on soit... Le but, quand on est en première division nationale, quel que soit le sport, c'est d'être champion, mais quand on n'y est pas, c'est de passer à la division supérieure. Bon, n'est-ce pas? Et quand ce jour-là arrive, quand on monte de division, il sait qu'il va devoir mettre la barre plus haut. Il sait que maintenant, ce qu'il attend, c'est du sérieux. Et donc, il va consacrer encore plus de temps et encore plus d'énergie. C'est normal tout ça, non? Je vous ai dit, je ne vais pas faire de la théologie, c'est tout simple. Mais c'est juste pour vous faire comprendre, et faire comprendre, chers auditeurs, j'espère qu'il y en aura, faire comprendre des choses simples. Si on prend l'exemple maintenant d'un étudiant, comment se déroule la vie d'un étudiant? Je parle d'un étudiant, bon ben voilà, on va prendre directement l'UNIF, hein, ça va? Et quelqu'un qui aime un métier, qui se passionne pour quelque chose, et puis voilà. C'est la même chose, il s'inscrit. Et après l'inscription, eh bien, il va aller au cours, évidemment, il va écouter attentivement. Pourquoi il va écouter attentivement? Parce qu'il veut comprendre. N'est-ce pas? Non? Il veut comprendre. Alors, je ne parle pas d'un... quelqu'un qui fait les études pour... Parce qu'il est obligé, hein? Je ne parle pas du loser. Je parle de quelqu'un qui est passionné, je lui ai dit, ça va? Donc, il va écouter attentivement parce qu'il veut comprendre, il veut apprendre, il veut être bon dans ce qu'il fait, il n'a pas envie d'être... C'est parce qu'il n'a pas envie d'être un mauvais, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais un mauvais infirmier, mauvais médecin, mauvais ingénieur, mauvais je ne sais pas quoi. Non, passionné par le futur métier qu'il attend, il va réviser, il va se préparer, et vraiment afin de bien comprendre la suite. Et puis quand l'épreuve arrive, je veux dire un examen, une interro, d'accord ? Est-ce qu'il s'étonne ? Dites-moi. Non, il ne s'étonne pas. Parce que il sait à quoi ça sert, l'examen. C'est comme le sportif, il sait à quoi sert le combat, il sait à quoi sert le match. Il faut exercer, il faut peser. Ici, l'examen, on sait à quoi ça sert. Il sait que ça va arriver, il s'est préparé déjà. Il n'est pas étonné. Et que fait-il ? Eh bien, afin de passer à l'étape suivante avec le plus de facilité possible et afin de progresser, eh bien, il va se plonger dans ses cours. Et puis quand une autre épreuve arrive, on va dire la grosse épreuve arrive, je vais comparer ça à peut-être les examens de fin d'année, n'est-ce pas ? Il abandonne parce que la grosse épreuve arrive, parce qu'il y a trop de matière ? Non. Il savait que ça allait arriver, de toute façon, non ? Il le savait. Donc il s'est préparé déjà. Donc il n'est pas surpris. Et alors qu'est-ce qu'il va faire ? Abandonner, non ? Oublier son objectif ? Alors qu'il a consacré toute une année, voire plus, ça dépend, voilà, je ne sais pas où il en est. Non ! Il ne va pas oublier son objectif. Il va redoubler de travail, même si c'est difficile. Ce n'est pas que c'est marrant, mais il a un objectif. Afin d'être prêt et de passer à la division suivante, passer à l'année suivante et avancer. Et quand enfin les études sont terminées, qu'une proposition de travail arrive, que la chose se présente, il est prêt. Il est prêt. Il a dû passer par tout ça. Et personne n'est prêt sans être passé par les examens. Personne. Et voici sa carrière qui commence, et puis voilà, ainsi de suite. D'accord ? Voilà deux petites illustrations simples à comprendre, mais tellement logiques, non ? Tellement logiques. Et maintenant, je voudrais passer au troisième exemple, troisième, ce n'est plus un exemple, c'est vraiment, on est dans le vif du sujet. Comment se déroule, non pas la vie d'un sportif ou d'un étudiant, mais comment se déroule la vie d'un chrétien ? Comment, on va dire comment se déroule bien souvent la vie d'un chrétien ? Eh bien, on commence par le début aussi. Il s'inscrit. Non, hein ? Il se convertit, c'est l'inscription. Ça va ? Et puis ce moment-là, waouh, il s'accompagne de joie, n'est-ce pas ? Et il y a ce premier amour, comme le Seigneur l'appelle, le premier amour, n'est-ce pas ? La joie du nouveau converti, plein de zèle. Et ce moment d'ailleurs s'accompagne, pour la plupart du temps, voire toujours, de signes, n'est-ce pas ? De réponses, de preuves, j'ai envie de dire. Parce que oui, nous marchons par la foi, mais ça n'empêche pas le Seigneur de nous donner des preuves de son amour et envers nous. C'est deux choses différentes. Et voilà. Voilà le début. Et puis après l'épreuve, vient l'épreuve. L'épreuve, pardon. Vous n'avez pas compris ? Bon. Ben oui, Jérôme, je sais bien, mais bon. Ça, ce n'est pas vraiment un jeu de mots, mais un petit peu. Après l'épreuve, vient l'épreuve. La première, n'est-ce pas ? Et puis voilà, une succession de plus ou moins nombreux encouragements, découragements, réponses, pas réponses, etc., etc. Vous voyez, le bateau commence à entrer en pleine mer. D'accord ? Puis, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, arrive la tentation. Parce que, voilà, en général, normalement, les petites épreuves au début, ça peut être une grosse, mais enfin, bon, voilà. On espère que le chrétien ne va pas, le nouveau converti ne va pas abandonner comme ça directement, mais ça arrive, justement. Donc, la tentation arrive, l'épreuve arrive. Que va-t-il se passer dans la vie du chrétien ? Bien souvent, ce qui arrive, c'est un relâchement. Des questions, des doutes, voire de la rébellion, de l'amertume. Parfois, un abandon. C'est pour ça qu'on n'est pas ici 10 fois plus, voire 30 fois plus. Ouais. Il faut bien dire, il faut dire les choses comme elles sont. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je ne parle pas à vous parce que vous êtes là. Où êtes-vous ? Vous avez abandonné. Ah, je prie toujours chez moi. Tu sais. Je prie toujours chez moi. Au secours. Tu as abandonné. Comment ? Il s'exerce à la maison. Là où il n'y a pas l'équipement, là où il n'y a pas les paniers, là où il n'y a rien, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'équipier, il n'y a pas de ministère, quoi, il n'y a rien. Ils ont abandonné. Voilà. Donc c'est intéressant quand même, non ? De parler là-dessus. Et pourquoi donc ? Pourquoi ? Bref, yo-yo. Voyez, parce que parfois, heureusement, il y a un retour. Heureusement, et puis voilà, c'est magnifique. Dieu ne juge pas, il accueille l'enfant prodigue. Voyez, on connaît cette histoire-là et c'est magnifique, c'est très bien comme ça. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça la question. Pourquoi ? Bon, alors, outre le travail de l'accusateur, on en a parlé la semaine passée, mais j'en dis quand même juste un petit mot. Le travail de l'accusateur, on sait qui c'est Satan, c'est le diable, c'est appelez-le comme vous voulez. Voilà, il y a deux raisons, parce que je ne veux pas être compliqué. On a parlé d'une raison la semaine passée. Et la première des raisons de cet abandon, de ce découragement, de cette vie en dents de scie comme ça, c'est à cause du travail de l'accusateur. Il travaille beaucoup trop facilement dans nos vies, beaucoup trop facilement. Et j'ai dit pourquoi, je vais revenir là-dessus. Il travaille trop facilement parce qu'on ne connaît pas Dieu. Oh, j'ai dit ça et j'ai dit quelqu'un, oh, mais si, on va dire, je connais Dieu. Bon, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, ok, tu le connais, mais pas bien, pas assez. Parce que si tu connais ton Dieu, tu ne te laisses pas influencer comme ça par les paroles de l'ennemi qu'il met dans ton cœur. Alors que tu ne sais même pas que c'est lui qui l'aimait. Il t'accuse, il te décourage. Et quand tu baisses un peu les bras, il va en plus, parce que voilà, je parle de ça, mais en plus, quand tu vas être visité par le découragement, il va t'accuser. Il va dire, tu es un bon arrêt, regarde, tu n'y arrives pas, etc., etc. Je ne vais pas refaire le discours que j'ai fait la semaine passée. Et voilà, il fait son boulot. Et le découragement arrive. Mais il n'y a pas que... De toute façon, il sera toujours... L'ennemi de nos âmes sera toujours mêlé au découragement. Toujours. Il fera toujours son boulot. Mais il y a autre chose. C'est ce dont je vous ai déjà quand même un peu parlé, mais aujourd'hui, je vais insister là-dessus. C'est la méconnaissance de Dieu et de sa parole. Et donc, une mauvaise mise en pratique de la foi, c'est ça qui tue le chrétien. Une mauvaise mise en pratique de la foi. Parce que notre foi n'a pas de fondement, ou pas assez de fondement. Et alors, on ne sait pas mettre en pratique des règles, vous rappelez de ma comparaison, permettez-moi d'employer des mots et référence aux comparaisons que j'ai faites avant, évidemment. Je n'aime pas te parler de règles dans la vie chrétienne, mais ici, vous avez compris, ça va. Tu ne connais pas les règles, tu ne connais pas les tactiques, tu ne t'y intéresses pas, tu ne t'es pas formé, et alors tu t'étonnes qu'au jour de l'épreuve, au jour de l'examen, le jour du match, tu n'es pas prêt. Mes connaissances de Dieu et de sa parole. Et c'est très important, vous savez ça. Tu joues, je sais bien que ce n'est pas un jeu, mais comparaison, je vais de vous le dire. Tu joues avec un mauvais mode d'emploi. Tu n'as pas le bon mode d'emploi. Je ne sais pas qui t'a refilé ce mode d'emploi. Je ne sais pas qui t'a refilé ces règles. Je ne sais pas qui t'a enseigné. C'est peut-être papa Bisounours. Mais en tout cas, ce n'est pas moi. Papa Bisounours, c'est qui? C'est celui qui fait des campagnes d'évangélisation, entre autres, et qui dit, « Oh, vous qui avez des problèmes, qui êtes marqués par la vie, venez au Seigneur Jésus, il change les vies. » Alors jusque-là, ben oui, c'est vrai, ok. Mais enfin, c'est un discours qui fait miroiter qu'après, tout va bien aller. Donc, la personne vient à Dieu en se disant, « Maintenant, les choses vont s'arranger, tout va aller, ma vie va être facile. » Voilà, ça c'est Papa Bisounours. Vous voyez? Et puis alors après, il y a toute son équipe. Toute son équipe, tous les bisounours. Alors quand ça ne va pas, vous voyez, les chrétiens bisounours, ils disent à ce nouveau converti, mais, ah, mais tu sais, attends, on va prier parce que ça va aller. Hein, puis, non, ça va, Dieu va te guérir. Dieu va changer, Dieu va faire revenir ton mari, Dieu va te guérir, Dieu va, et puis ça n'arrive pas. Parce que l'équipe des bisounours proclame des choses que personne ne leur a dit de dire. Vous voyez, ça ne vient pas du Père, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de la parole bisounours, c'est tout. Le règlement bisounours, c'est tout. Voilà. Et puis alors après, voilà, quand la difficulté arrive, quand l'épreuve arrive, ben c'est pas normal, parce que c'est pas ce qu'on m'avait dit. Pourquoi j'ai des examens? Moi, je n'ai pas envie d'étudier. Pourquoi il y a un combat? Moi, je n'ai pas envie de me préparer. C'est ça, en fait. Donc, on a dit des choses. On a entendu des choses qui ne sont pas vraies. Et peut-être, on est bisounours tout seul. Hein? Parce que, d'ailleurs, vous avez remarqué que les bisounours, ils sont partout. Excuse-moi, Maïté, mais ils sont partout, les bisounours. Et ils sont très en colère, les bisounours. Parce que on en voit partout. Vous voyez, quand vous parlez de Dieu, on en voit partout et ils sont tous fâchés. Parce qu'ils vous disent, si Dieu existait, eh ben, ça n'arriverait pas. Voilà. J'aurais pas perdu mon papa alors que j'avais que 20 ans. Et si Dieu existait, eh ben, il n'y aurait pas la famine, eh ben, il n'y aurait pas des guerres. Alors moi, je suis fâché. Voilà, ça c'est l'équipe des bisounours du monde. Ils sont tous fâchés sur Dieu, alors il n'existe pas. Eh ben, moi, je ne crois pas en Dieu parce qu'il n'existe pas, parce que s'il était là, ce ne serait pas comme ça. Voilà. Et puis, tu viens à Dieu avec ce même caractère et ce même raisonnement. Mais ce n'est pas comme ça. Ce Dieu-là, c'est toi qui l'as fabriqué, c'est toi qui l'as inventé, et il n'existe pas. Alors, ça me fait rire, des fois, on parlait de ça, c'est avec ma fille, avec Louana, elle parlait de ses cours de religion, vous savez, maintenant, c'est de bon ton de dire, ouais, on a tous le même Dieu, etc., mais c'est juste, son cours de religion, c'est comme ça, enfin, c'est souvent, vous avez sûrement entendu ça, souvent, on a tous le même Dieu, mais bon, voilà. Mais c'est le même, mais pour certains, il dit A, et pour d'autres, il dit B. Et pour certains, il pense noir, et pour certains, il pense blanc. Mais c'est le même. C'est le même, donc, qui raconte n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et alors, oh, c'est prétentieux de dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Écoutez, alors, on fait quoi? Alors, on va où? La vérité, c'est la vérité. Ce qui n'est pas la vérité, ben, c'est une erreur, c'est tout, voire un mensonge. Et donc la Bible, puisque c'est ce que nous croyons, puisque c'est dans ce Dieu-là que tu as placé ta foi, eh bien, ce n'est pas bisounours. Ces examens-là, ces épreuves-là, elles étaient annoncées. Pas parce que c'est marrant, pas parce que Dieu a trouvé qu'il fallait un petit peu que notre vie soit difficile, non, mais parce que c'est la réalité. C'est une réalité de la vie. Le fait que nous que tout commence par la chute, hein, que nous sommes séparés de Dieu, et puis qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix, qu'il souffre, et que nous vivions nous aussi la communion des souffrances du Christ, et que voilà que nous sommes dans un monde de perdition. Mais il n'y a rien, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, qu'il puisse être comparé à la gloire. Aucune souffrance ne peut être mesurée et comparée à la gloire qui nous attend. Alors voilà, c'est magnifique ça. Mais si vous croyez que quand une épreuve arrive, ce n'est pas normal et que Dieu n'est plus là, alors trompez d'évangile. Ce n'est pas l'évangile, le vrai évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est tout. Alors c'est simple ce que je dis aujourd'hui, mais il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir. Et donc la plupart des découragements, des épreuves, des abandons viennent du fait qu'il n'y a pas un enracinement profond une connaissance de la parole de Dieu et de qui est Dieu. Un Dieu qui nous aime tellement. Et ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais malgré ce que je vous dis aujourd'hui et ce dont je vous parle aujourd'hui, il faudra en parler, je ne sais pas comment, mais vous ne vous imaginez pas et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point Dieu est bon et à quel point il vous aime. Mais ça, c'est autre chose. Mais ici, je parle d'une autre réalité. Alors, si tu ne connais pas les règles, si tu joues avec un mauvais mode d'emploi, ça n'ira jamais. Et si tu essayes de continuer comme ça, c'est comme celui qui joue en trichant, eh bien, tu vas être disqualifié. Tu vas être disqualifié parce qu'on ne triche pas. Dans aucun sport, on triche. Dans aucune école, on arrive en trichant. Dans l'apprentissage d'aucun métier, on arrive à être qualifié en trichant. Non. Ça n'étonne personne de devoir souffrir pour un objectif qui est futile, mais qui nous passionne, mais on n'accepte pas de souffrir pour Christ. Et ça, c'est un problème. Vous voyez ? Voilà pourquoi le découragement est là. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est peut-être pas les paroles que vous avez envie d'entendre, parce que je ne suis pas en train de vous caresser en disant « Écoute, oh, ma chérie, tu souffres. » Pardon ? Oui, tu pensais à « Ma chérie !» Mais c'est pas la même chose. Bon, ma chérie, tu souffres, moi. Oh, mon Dieu. Mais oui, mais évidemment, souffrez avec ceux qui souffrent, pleurez avec ceux qui pleurent, et réjouissez-vous avec ceux qui... Ce n'est pas ça le problème. Ok, ça c'est vrai. Et oh, je ne nie pas la souffrance. Je ne nie pas la souffrance, d'accord? Et Dieu ne nie pas la souffrance, mais elle est là. Et elle n'est pas anormale. D'accord? Alors, petite conclusion à ça déjà. Tu ne peux pas être un chrétien solide et efficace si tu n'as pas appris les règles et si tu ne les acceptes pas. Si tu ne connais pas bien ton Dieu et si tu ne connais pas les principes spirituels qui régissent le monde spirituel, parce que nous ne sommes pas que faits de chair et d'os. Tu ne peux pas être victorieux et être un chrétien efficace si tu ne connais pas les principes spirituels de la vie spirituelle, de la vie tout simplement. Donc, tu ne peux pas t'entraîner et progresser et avoir les bons réflexes. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les bons réflexes. La plupart des chrétiens n'ont pas les bons réflexes. Quand l'épreuve arrive, réflexe, téléphone, courir à gauche, à droite, on se plaint, ça ne va pas, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas ça le bon réflexe. C'est quoi le bon réflexe? Un chrétien normal, il se prépare. Quand l'épreuve arrive, ou quand on sent qu'elle va arriver, mais il va s'enfermer dans sa chambre, il n'a pas envie, hein. Il n'est pas... Ah, on va dans sa chambre quand on est... Voilà, c'est pour ça qu'on écoute des... On écoute Hillsong, Bethel et tout ça, et c'est bien. Et puis, on attend que... Ah, je sens, je prends l'envol, je prends... Oh, et puis alors on commence à prier. Mais il y a des jours, ce n'est pas possible ça, parce que l'épreuve est là. Est-ce que Dieu ne nous entend pas quand on n'est pas en train de planer? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir parfois un peu les pieds sur terre pour avoir la tête dans le ciel. Et donc voilà. Et je vais vous lire un texte, parce que pourtant, la Bible est claire. Mes frères et sœurs, quand le jour de l'examen arrive, quand le moment de servir, de commencer à servir arrive, tu n'es pas prêt. J'espère que je me trompe peut-être, pour toi. Tu n'es pas prêt, pourquoi ? Eh bien pour les raisons que je viens de dire. Et pourtant la parole de Dieu dit ceci. Et je prends Jacques, et si tu le permets, je vais le prendre dans Parole de vie. Jacques, premier chapitre, on passe le premier verset, on va au 2, comme ça on passe juste les salutations. Et Jacques dit quoi? Parce que Jacques, j'aime bien, il est pratique, mais ce n'est pas le seul à le dire. Parce que Pierre aussi parle de la souffrance, Paul aussi parle de la souffrance, et ils disent tous les mêmes choses avec d'autres mots, mais ils en parlent. Alors, mes frères, réjouissez-vous, déjà, lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux, elles sont pour vous, pardon, oui, c'est ça, pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Parole vivante. J'ai dit parole de vie. Parole vivante, alors. C'est facile à confondre, hein. Voilà. Alors, mes frères, c'est vous, c'est moi. Ah, c'est nous, ça. Rien à voir avec les bisounours. Ben oui, non, mais, hein, vous comprenez comme ça vous vous souviendrez, comme ça j'insiste. Parce que c'est important, je rigole, mais c'est important, hein. C'est vous, ça, mes frères et sœurs. Réjouissez-vous. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas ça que ça veut dire, mais n'empêche, réjouissez-vous, pourquoi ? Ça veut dire, écoutez, je sais, vous souffrez, mais soyez contents. Pourquoi ? Parce que, lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, alors moi j'ai souligné toutes sortes d'épreuves, ce ne sont pas seulement les épreuves du chrétien. On croit que parce qu'on est chrétien, on va avoir une épreuve spécialement calculée et formatée juste pour les chrétiens. Mais non, on passe par les mêmes épreuves que d'autres, par lesquelles d'autres passent qui ne sont pas chrétiens. Et puis aussi, il y a des différentes, évidemment. Mais toutes sortes d'épreuves, ce sont toutes les épreuves. Et toutes sortes de tentations. On a toutes sortes de tentations. Eh bien, estimez-vous heureux. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pour vous, c'est l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Bon, alors, il faut savoir ça. Alors, quand ça arrive, on n'est pas étonné. Et puis, ensuite, il dit ceci. Vous savez bien. Ah ben là, je doute. Hein. Là, je doute. Mais pourtant, lui, il pense ça. Il est plus optimiste que moi, peut-être, Jacques. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais ce n'est pas la même chose qu'un sportif. Il fait ça juste pour pouvoir rentrer plus souvent le ballon dans un filet. C'est tout. Et toi, tu fais ça pour un but, un objectif bien plus grand, non ? Non ? Mais seulement, l'épreuve arrive. Oh là là, je ne comprends pas. Pourquoi le Seigneur permet ça ? Pourquoi le Seigneur permet que j'ai un examen maintenant ? Pourquoi ? C'est pas normal, je ne comprends pas. Et puis alors, on est en première année. Et puis quand arrivent les examens de fin d'année, de première année, on abandonne parce qu'il y a trop d'examens. Et alors après, on recommence, on dit « Ah, oh, ça va, je connais en plus maintenant, ça va, c'est facile. » Et puis quand arrivent les examens, nous, on abandonne. Et puis on recommence tout le temps la première année. Non, c'est un peu ça. Hein. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas les réalités de la vie et les réalités spirituelles. Voilà. Donc, vous savez bien, donc vous devriez savoir ça. Si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, ben elle développera votre endurance. Verset suivant. Mais, pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre. Pardon, sans que votre constance se relâche. Problème, c'est la constance. Alors voyez le truc, je vais vous expliquer parce qu'il y a des choses importantes quand même à savoir. On ne vous demande pas d'être content et d'aller à l'école en sautillant sur une jambe et disant « youpi » sur les examens. On ne vous demande pas ça. Mais non, on ne vous demande pas de faire semblant que c'est marrant et dire « ah, je suis dans l'épreuve ». On ne vous demande pas ça. On ne vous demande pas de vous lever le matin et dire « ouais, je suis en pleine forme aujourd'hui » alors que vous êtes claqué parce que vous avez étudié toute la nuit. On ne vous demande pas ça. On ne vous demande pas de faire semblant, on ne vous demande pas d'être hypocrite. Alors que vous passez une épreuve, on ne vous demande pas de sourire alors que vous n'avez pas envie de sourire, même si je sais, il faut louer le Seigneur en toutes circonstances, mais tout ça, c'est différent. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'avoir la force que vous n'avez pas. Vous voyez ? On ne vous demande pas, et Dieu ne vous demande pas d'être faux. Dieu ne nie pas votre souffrance. Ce n'est pas ça le problème. C'est la constance. Je peux témoigner que dans ma vie, alors évidemment, je préfère témoigner des bonnes choses, voilà, que des mauvaises, que là où j'ai chuté, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai continué à avancer, à marcher par la foi, non pas en marchant, non pas en me traînant à genoux, mais en rampant. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas avancer très vite. Et même, je me rappelle même avoir eu des paroles de prophétie, je me dis, mais en fait, plutôt, ce n'était pas des paroles de prophétie, mais des paroles de connaissance, où quelqu'un voyait que je ramais, je ramais, et malgré que je ramais, je reculais quand même, parce que le courant était plus fort. Ça arrive. Ce qu'on te demande, ce n'est pas d'avoir la force que tu n'as pas, c'est de continuer avec la force que tu as, même s'il faut ramper parfois. Dire, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pour ça qu'on connaît si bien mon chant préféré, jusqu'au bout. Je l'ai déclaré il y a des décennies. Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, par ta grâce, à toi Seigneur, pour mourir et vivre. Et ça, ce chant, je l'aime parce que je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré et je le ferai. Et je n'abandonnerai jamais Dieu, vous savez pourquoi ? Parce que je ne compte pas sur ma force, mais sur sa grâce. Amen. Voilà pourquoi je n'abandonnerai jamais. Alors toi qui as baissé les bras, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Chers auditeurs, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Que votre patience se manifeste dans toute votre conduite. Et s'accompagne d'actes parfaits. Il ne faut pas changer mes décisions et mes actes parce que je suis dans l'épreuve. Au contraire, c'est dans ce moment-là. Si dans les moments d'épreuve, si un étudiant, dans les moments de la première interrogation, il baisse les bras, il va tout rater, toujours systématiquement. Si un sportif, au moment du match, il dit « je vais, oh, ils sont trop forts, j'y arriverai jamais », il ne va jamais gagner. Vous comprenez ? C'est la même chose. Et c'est ça le problème des chrétiens. Vous voyez, c'est ça le problème des chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens abandonnent. C'est pour ça qu'ils sont découragés. C'est parce qu'ils ont une idée d'un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Vous voyez ? Alors oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu, il y a des grandes promesses pour nous. Oui, il y a plus de joie à être dans la maison du Seigneur que 1000 jours ailleurs. Oui, il y a de la joie d'appartenir au Seigneur, de le servir, etc. Et je peux en témoigner, c'est magnifique. Mais les jours d'épreuve arrivent toujours. Et je dois être prêt. Donc, il faut que notre patience se manifeste dans toute votre conduite, s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable. On ne devient pas, parce que la Bible parle de ça, on ne devient pas irréprochable, on ne devient pas professeur titulaire de chaire, je ne sais pas tout quoi, sans passer par des études et des examens et des efforts. Ce n'est pas vrai ça. Et voilà, et ça c'est un gros problème des chrétiens. Et il ne vous manquera de rien. Alors, il y a une deuxième chose qui est dite dans... On dirait que Jacques, il passe d'un truc à l'autre, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'après, il dit ceci au verset suivant. Si l'un de vous manque de sagesse, de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera. Car à tous, il distribue des dons généreusement, ses dons généreusement, et en toute simplicité. C'est génial, hein ? Et c'est vrai, d'accord ? sans adresser le moindre reproche. Ok ? Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir ? Mais ça a à voir. Verset suivant. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer ballottées. Vous savez, la mer du Nord, en plus, on connaît, et puis ça arrache tout en plus. La mer du Nord, c'est, voilà, vous voyez, ça a des essences, ça revient. C'est, enfin voilà, et puis quand il y a des tempêtes, c'est violent, le vent, etc. D'accord ? Alors, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Moi, ce verset-là, il m'a bien découragé quand je ne le comprenais pas. Parce que je me disais, je n'aurai jamais assez de foi alors pour obtenir quelque chose, et alors, puisque je n'ai pas assez de foi, Dieu va toujours me rejeter. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est très mal le comprendre. Et puis on finit au verset 8. Verset 8, il ne recevra jamais rien. Pourquoi ? C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce qu'il doute, tout le monde a des doutes. C'est pas parce qu'on n'a pas une grande foi, personne, enfin, je sais pas vous, mais une petite foi, ça suffit. Pourquoi il ne reçoit rien ? Parce que c'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Et voilà. Quelqu'un d'inconstant dans toutes ses entreprises, quelqu'un qui a le cœur partagé, quelqu'un qui est instable dans sa conduite, ne reçoit jamais rien. Pourquoi ? Parce qu'il est puni par Dieu ? Mais non ! C'est pas parce qu'il est puni par Dieu, c'est parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ? Parce que cette foi, elle est agissante. Cette foi, elle est concrète. Alors, si j'ai la foi, mes œuvres se manifestent, mes œuvres manifestent ma foi. Si je n'ai pas la foi, ben justement, si je marche dans le doute, ben je n'obtiens rien. C'est tout. Pourquoi ? Parce que Dieu me punit ? Non ! Pas parce que Dieu te punit, mais non ! Parce que tu n'as pas assez de foi, parce que tu doutes ? Non ! Enfin oui, parce que tu doutes, mais pas le doute qui te visite comme ça. Non ! Parce que tu ne prends pas le chemin que Dieu t'a dit de prendre pour arriver à obtenir ce qu'il a dit que tu obtiendrais. C'est tout. Quand Dieu te dit, voilà, je vais te donner ça, va par là. Et puis, va par là et tu vas obtenir cette chose-là. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu es découragé, parce que l'épreuve est là, tu n'obtiendras jamais rien. Voyez le truc ? Et ce sont des choses qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas assez dans l'Église, vous voyez ? Évangile, bisounours, enfin, je peut-être ça vous casse les pieds, vous avez un autre mot peut-être, je ne sais pas, il y a des autres dessins animés maintenant, on ne voit plus beaucoup ça. Mais j'aime bien prendre bisounours parce qu'ils ont nié, quoi. Ils sont niés, voilà. Vous voyez ? Alors ça me fait rire. Voilà. Il y a donc deux choses importantes, et puis je vais vous expliquer encore ça. Deux choses importantes dans tout ce texte qu'on vient donc de lire. Et je résume. La pratique de la foi. Sachez que la doctrine, etc., on prend ça un peu à la légère, mais une doctrine correcte, c'est la base de la foi chrétienne. Pas de doctrine, pas de foi correcte. Et j'insiste là-dessus pour faire en plus ma publicité pour les études bibliques qu'on va commencer, je ne sais pas quand, parce qu'il va falloir aussi s'occuper des études avec les futurs baptisés, mais j'en profite pour faire la pub, parce qu'on va faire ça. Quand je dis on va voir toute la base, en fait, c'est quoi qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle théologie systématique. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est toutes les doctrines de la foi, et on va voir tout ça, et c'est important, parce que sans une doctrine forte, sans une bonne doctrine correcte, eh bien, il n'y a pas de base pour la foi. Le vrai disciple, écoutez bien ceci, le vrai disciple, parce qu'il connaît son Dieu, il sait qu'il ne s'est pas converti pour ne plus jamais avoir d'épreuves et de problèmes. Vous avez compris ça ou il faut que je le répète ? Il sait, il ne s'est pas converti pour ça. Il n'a jamais cru que la foi était un outil personnel pour pouvoir survoler au-dessus de tout. La foi, on croit que c'est un outil pour obtenir des sucettes. Hein ? Ouais, c'est vrai. On croit que c'est un outil pour obtenir, pour voler, quoi. pour survoler au-dessus des épreuves. Mais ce n'est pas ça. Le disciple, le véritable chrétien, il sait que la vie chrétienne normale passe par des examens, je l'ai déjà dit, et passe par des difficultés. Il sait pourquoi Dieu permet et envoie, soit il permet, soit il envoie, des épreuves. Il sait pourquoi. Alors, je ne vais pas vous dire ici toutes les raisons, mais on l'a lu simplement dans ce texte. Et il arrive même, parfois, le chrétien, pas toujours, je le dis, pas toujours, mais il arrive même parfois à se réjouir, non pas de la souffrance qu'il est en train d'éprouver par cette épreuve, mais de ce que l'épreuve va produire. Il se réjouit de ce que l'épreuve va produire. Pierre dit, et tu peux l'afficher si tu veux, Pierre dit, dans Pierre 1er chapitre verset 6, « Réjouissez-vous à cette pensée. » Je pense que c'est toujours parole vivante. « Réjouissez-vous à cette pensée. » Alors, il vient de parler précédemment du salut, de notre héritage que Dieu a préparé, de ces choses merveilleuses. Il dit « Réjouissez-vous de ces choses-là. Réjouissez-vous à cette pensée. Même si actuellement, vous êtes dans la tristesse. » Donc, vous voyez, Pierre, il nie pas qu'il y a de la tristesse. Et je n'ai pas dit ça. Il dit « Réjouissez-vous, même si pour le moment, vous êtes dans la tristesse. » Vous voyez, il est équilibré. Ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas fou dans ce que je prêche. N'est-ce pas? La souffrance, parfois, c'est bien difficile. On a besoin, parfois, bien de s'aider les uns les autres, et de s'encourager, et de prier les uns pour les autres, et d'aller plus loin, d'ailleurs, que la prière, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Même si actuellement, ben oui, vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer, pendant quelques temps encore, diverses épreuves et tentations, vous voyez? C'est normal. Et vous êtes triste, et c'est normal aussi, il ne dit pas le contraire, vous voyez? C'est intéressant. Puis, verset suivant, elles éprouvent la réalité de votre foi. Examen, match, combat. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Alors, si tu ne veux pas passer par là, fais toute ta vie au baby basket. Hein. Mais il ne faut rien espérer d'autre. Elles en augmentent la valeur. Le feu du creuset qui éprouve et affine de l'or, qui disparaît pourtant un jour. Hein, il disparaîtra un jour. Eh bien, beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra la louange, gloire, honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, c'est la vie normale du chrétien. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne vais pas vous mentir, parce que c'est comme ça. On dirait que Paul, parce que c'est Paul ici, non, c'est Pierre, pardon, ne fait rien d'autre que ce que je suis en train de vous faire, de faire avec vous. Il comprend la souffrance, il ne la nie pas, il dit que c'est normal et il dit pourquoi c'est normal. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. La deuxième chose qu'on a vue donc dans ce texte de Jacques, quand on parle de cet homme qui ne recevra jamais rien de Dieu, bien celui qui ne reçoit pas de Dieu, je vous le répète, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien, il est chrétien. Ce n'est pas parce qu'il ne le mérite pas, personne ne mérite. Vous avez suivi? Ce n'est pas parce qu'il a chuté plusieurs fois, ça arrivait à beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé le moyen de surmonter telle ou telle chose dans sa vie, ça arrive aussi à beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il est nul, comme Satan te le dit, ou comme Satan lui dit. Ce n'est pas parce que Dieu l'a rejeté, comme l'ennemi le fait et accuse, comme je l'ai dit la fois passée. Ce n'est pas parce que Dieu a détourné son regard de lui, parce que beaucoup croient qu'ils sont tellement nuls et mauvais et qu'ils chutent à répétition que Dieu a détourné le regard d'eux. Non. Ce n'est pas non plus parce que les autres sont plus saints que lui. Non, ce n'est pas pour ça. Et ce n'est pas non plus parce qu'il manque de foi. Et vous avez entendu, parce que c'est important ce que je dis là. Ce n'est pas parce qu'il manque de foi qu'il ne va pas recevoir. Parce qu'on dit, mais si, on ne reçoit pas parce qu'il doute. Oui, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Une petite foi déplace les montagnes, mais il faut la mettre en pratique. C'est parce qu'il est indécis. C'est parce qu'il est instable. C'est parce qu'il est inconstant. Vous voyez? Et c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important pour demeurer ferme dans sa foi et courir vers le but. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, c'est de savoir ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'il est inconstant? Pourquoi est-ce qu'il est instable? Eh bien, on a vu les deux raisons. Parce qu'il se laisse accuser très facilement par l'ennemi. Parce qu'il n'a pas de fondation solide. Il ne pratique pas la foi, la véritable foi. Et ça ne marche pas. Un des mots d'ordre dans le chemin de la foi, dans le chemin de la vie chrétienne, ce n'est pas ta force, ce n'est pas que tu sois fort, ce n'est pas ça qui est important. Ce ne sont pas tes capacités, ce ne sont pas tes qualifications qui sont importantes, loin de là. Ce n'est pas le fait que tu sois exceptionnel ou pas. C'est la persévérance. Malgré tes faiblesses, la persévérance, pas seulement malgré tes faiblesses, mais la persévérance avec tes faiblesses. La persévérance pendant même tes faiblesses. Et ta persévérance avec tes faiblesses au moment de l'épreuve, dans l'épreuve et au moment de l'épreuve. C'est ça le mot d'ordre, persévérance. Persévérance ne veut pas dire fort, ne veut pas dire inébranlable, voyez. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas ça que ça veut dire persévérance. Et donc voilà, je conclue. Comment devrait être maintenant la vie d'un chrétien? On passe le début de l'histoire, on passe l'inscription, mais quand arrive l'examen, le combat, l'épreuve, ben, naturellement, le chrétien, il va aller s'isoler, il va prier, il va se préparer. Avant de courir dans tous les sens et se précipiter sur son téléphone, il va être plus assidu encore à l'église et au rayon de prière, parce que c'est le contraire qui se passe. Quand ça ne va pas, vous téléphonez aux gens, parce que c'est ce que je raconte. Vous téléphonez aux gens parce que ah, on ne t'a plus vu depuis longtemps. Oui, bah ouais, et puis alors, voilà, c'est dur, il y a un découragement. Mais justement alors, voyez, justement, ça devrait être plein de gens découragés. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. L'Église devrait être remplie de gens découragés. Enfin, hein, vous avez compris, hein. Si on isole ma phrase, on va dire qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur-là. Voilà, voyez, il doit être encore plus assidu. Il doit être à sa place dans son ministère, là, voyez. Et normalement, il doit chercher Dieu encore plus quand l'épreuve arrive, voilà, voyez. Et sa confiance en lui doit redoubler. Pourquoi? Parce que il ne trouve rien d'étrange dans ce qui lui arrive. Il ne trouve rien d'étrange dans ce qui lui arrive. Je termine, hein, vous en faites pas vraiment. Pas plus qu'un étudiant s'étonne que les examens arrivent ou qu'un sportif voit le jour du match arriver. Et Pierre dit ceci encore, chapitre 4, le verset 12. Bon, je pense que j'ai pris version, j'ai pas pris attention là. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà, ne trouvez pas ça étrange. C'est dit dans la parole, à plein d'endroits, ne trouvez pas ça étrange. Mais si, le chrétien trouve ça non seulement étrange, mais anormal. Et plus qu'anormal, trouve ça inconcevable et même est fâché contre Dieu parce que ça arrive. Réjouissez-vous, il dit aussi, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il paraîtra. Alors, si tu te sens faiblir et défaillir, accroche-toi, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que tu crois et tu sais, même si tu ne comprends pas, que Dieu est là. Dieu, vous savez, fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Seulement, si tu recommences sans cesse ta première année, ça ne va pas être possible après un moment. Vous voyez? C'est ça le problème. La souffrance et pour mon bien, c'est facile de dire ça parce qu'on ne l'aime pas, je ne l'aime pas non plus, je vous assure. Et mon bien, c'est quoi? C'est de devenir conforme à Jésus-Christ. Amen. Je répète, la souffrance, elle est pour mon bien. Et mon bien, c'est quoi? C'est devenir conforme à Jésus-Christ. Amen. Que ces quelques paroles vous encouragent et vous fortifient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.